Monnaie émergente d'Asie, la descente aux enfers aura-t-elle une fin? Faut-il profiter de la chute des grandes monnaies d'Asie pour acheter? Dans cette vidéo, vous allez assister à, tout d'abord, première partie, je vais vous rappeler les sources de la pression baissière. Alors, ces sources de la pression baissière sont certes liées aux événements géopolitiques, mais vous allez voir que la plupart de ces monnaies sont en baisse maintenant face au dollar américain depuis 2 ou 3 ans pour des raisons plus structurelles, mais naturellement, le ton fort du moment, c'est la géopolitique depuis la fin du mois de février dernier. Les banques centrales des grands pays d'Asie passent à l'action. La Banque centrale d'Inde est intervenue directement sur le marché des changes la semaine dernière pour interrompre la chute libre. La chute libre. Imaginez sauter d'un avion sans parachute de la roupie indienne. USD, INR qui approche du seuil des 100. Est-ce que ce seuil va être franchi? Mais il y a aussi la Banque centrale d'Indonésie et la Banque centrale des Philippines qui réengagent un cycle haussier des taux d'intérêt pour mettre un terme à la fuite des capitaux, mettre un terme à la chute de la devise, alors que l'inflation importée s'envole. Alors, dès que la situation géopolitique s'améliore, va s'améliorer et elle s'améliorera in fine, il envisageait de revenir à l'achat sur toutes ces monnaies. Je vais vous faire le point fondamental. Je regarde mes notes parce qu'il y en a un certain nombre. Nous allons parler baht thaïlandais, nous allons parler de la roupie indienne, de la roupie indonésienne, du dong vietnamien, vous voyez, je lis même pas mes notes. Du won sud-coréen et du peso philippin. Et du yuan chinois, bien sûr. Mais sur le yuan, j'ai fait une vidéo spéciale la semaine dernière, car la trajectoire est complètement différente, voire même complètement et diamétralement opposée entre, d'une part, le yuan chinois et, par exemple, la roupie indienne. Cela n'a strictement rien à voir, pour des raisons fondamentales que vous allez comprendre. Nous allons regarder. C'est vrai que quand on parle de banque centrale, nous parlons que de la Fed. Bon, là, on va aller voir en détail le cycle des taux d'intérêt de ces banques centrales. Mais oui, les amis, il n'y a pas que la Fed dans le monde. Il n'y a pas que Kevin Warren, Jerome Powell et Monsieur Trump dans ce monde gigantesque. Et donc, faut-il les acheter, ces devises? Alors que certaines banques centrales passent en mode risque de resserrement monétaire. À des taux qui montent, parfois, ça attire à nouveau des capitaux sur une monnaie. Et oui, moi, les amis, je creuse le sujet sur le Forex. Je vais pas vous parler du dollar toutes les semaines. Donc, on creuse. Bon. Et enfin, bien sûr, nous allons faire le tour d'horizon technique. Toutes ces monnaies face au dollar américain. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai plus qu'à vous souhaiter d'être installé correctement. J'espère que vous allez bien, d'ailleurs, au passage. Et puis, profitez de cette nouvelle édition du Fast & Forex.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Bon, tout va bien les amis? Vous n'avez pas trop chaud? N'avez-vous pas trop chaud? Alors que nous sommes entrés dans une phase de canicule, que la tension se fait sentir sur les devises émergentes d'Asie. Alors, attention, elles ne sont pas en chute depuis le début des opérations militaires qui ont commencé le 28 février dernier. La situation géopolitique a naturellement amplifié le mouvement de repli de ces devises émergentes face au dollar américain. Alors, au passage, devises émergentes d'Asie émergentes. Par exemple, le yuan chinois fait toujours partie, officiellement, c'est une classification des devises dites émergentes. Nous ne pouvons pas dire que sur le plan technologique, la Chine soit un pays émergent, soyons clairs, ni sur le plan industriel. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le yuan chinois et la place de la Chine dans la production industrielle mondiale. Non, plus sérieusement, il y a une question hyper intéressante sur le FX. La chute libre de la roupie indienne, de la roupie indonésienne, notamment de la roupie indienne. Vous allez voir, moi je vous mets un billet, je vous fiche un billet comme on dit chez moi au Texas. Je vous fiche un billet que la roupie indienne, d'ici la fin de l'année, aura fait une très nette reprise. Viendra le moment où le taux de change USD-INR va se retourner à la baisse. Mais on va regarder aussi du côté de la Thaïlande, des Philippines, du Vietnam et de la Corée du Sud, etc. Donc c'est parti, on passe à l'action. Monnaie asiatique, la chute aura-t-elle une fin? Alors, notez bien, j'ai bien dit, la chute aura-t-elle une fin? Donc, bien sûr, vous imaginez un T ici qui n'existe pas. Donc, ces monnaies d'Asie, et laissez-moi poser le micro, voilà, ces monnaies d'Asie, donc c'est mon tout nouveau micro Shure MV7+, alors, qui produit un son qui est presque parfait lorsqu'on s'en approche comme ça, mais aussi le son reste tout à fait correct lorsque je m'en éloigne, et moi, vous me connaissez, quand je fais des vidéos, je bouge un peu dans tous les sens pour montrer mes gros muscles, entre autres, pas que. Et donc, voilà, je prends, mais bon, peu importe, le son reste quand même de bonne qualité. Donc, la chute de ces monnaies d'Asie, là, vous avez l'exemple de la roupie indonésienne, la roupie indienne et le peso philippin, ne date pas du déclenchement des opérations de la situation Moyen-Orient. Ça fait quelques années maintenant. Mais il y a une accélération du drop en lien avec les événements géopolitiques. C'est ce dont donc, nous allons parler. Et moi, je pense que cette accélération est la phase finale d'une phase de baisse qui bientôt se stabilisera et se retournera. Mais il y a beaucoup de challenges et fondamentaux et techniques qu'il faut que nous passions en revue. Alors, bon, ce slide, vous l'avez vu 1000 fois, mais c'est toujours important de rappeler une chose. Hormuz, c'est l'Asie. Alors, c'est le monde entier, c'est l'Europe, parce que le prix des matières premières sur les marchés internationaux concerne le monde entier. Donc oui, effectivement, la part des flux destinés à l'Asie concernant le pétrole par Hormuz, c'est 80-85%, 80-90% pour le gaz naturel. Bref, même pour l'engrais urée, c'est l'Asie. Mais les marchés financiers internationaux, eux, le prix est le même pour tout le monde. Donc tout le monde souffre. Vous avez pu observer l'évolution du prix de l'essence, du gasoil à la station-service. Très bien. En ce qui concerne l'inflation alimentaire, l'urée, j'ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex sur ce sujet il y a déjà quelques semaines, vous pouvez la reprendre. Donc, ça c'est pour rappeler que c'est bien sûr l'Asie qui est la première sous pression. La chute des devises d'Asie, c'est un processus global. J'en rappelle ici quelques éléments et sous forme de tableau synthétique. Tout d'abord, bien sûr, oui, la hausse du prix du pétrole et la hausse du prix de l'énergie. Pourquoi ? Parce que ces pays-là sont, pour la plupart d'entre eux, importateurs nets de pétrole. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, importateurs nets d'énergie. Et en plus de ça, vous n'êtes pas sans savoir que l'Asie produit la croissance économique la plus forte à travers le monde. Ces pays ont une population qui grimpe en flèche. Ces pays ont une croissance du PIB important. Donc, pour entretenir cette croissance, eh bien, il faut bien s'appuyer sur des sources d'énergie. Donc, ils importent, et ils n'en produisent pas trop. Certains de ces pays produisent du pétrole, mais finalement pas assez. Et au final, ils sont importateurs nets. Donc, bah oui, ça pique quand le prix du pétrole augmente. Et puis, il n'y a pas que ça. Leur stock de pétrole baisse, bah oui. Et là, lorsque certains pays sont proches de la zone critique, certains pays n'ont plus que 20 ou 30 jours de stock. Vous comprenez quand même pourquoi la devise est sous pression ? Derrière, c'est l'économie qui flanche. La devise est sous pression, les investisseurs internationaux revendent les obligations du pays, revendent les actions, etc. Donc, il y a intérêt à ce que la situation géopolitique s'améliore, et vite, et quand bien même elle s'améliore, vous savez qu'il y a une certaine durée de normalisation. Vous connaissez la chanson depuis le temps que, ici, nous répétons ces choses-là avec l'ami Thomas. Il y a d'autres sujets peut-être plus précis, bien sûr, Hormuz, tout ça, vous avez tous pigé. Alors, là, c'est important, le coût du fret et de l'assurance maritime. Ça peu importe, en fait, l'évolution de la situation géopolitique. Ça va prendre énormément de temps. Ça va rester à un prix très élevé. Vous avez notamment la possibilité, donc, il y a deux gros indicateurs pour suivre le coût du fret maritime. Le Baltic Dry Index, qui est le coût du fret maritime pour le transport de matières premières. Et vous avez le Shanghai Container Freight Index, qui est le coût du transport maritime, donc, au départ, donc, des ports chinois pour tout type de produits. Ça peut être aussi des biens industriels, des biens de consommation. Et effectivement, ce que l'on observe, bien, c'est qu'il y a une augmentation sensible depuis donc le mois de février dernier, une augmentation sensible du prix du fret maritime, que ce soit donc sur le Shanghai Container Freight Index ou sur le Baltic Dry Index. Et naturellement, bien, ça se traduit par une hausse du coût des flux commerciaux donc pour ces pays. Là aussi, c'est une augmentation des coûts, ça met l'économie sous pression. Bien sûr, l'augmentation du coût de l'engrais urée, qui va aussi essentiellement à destination de l'Asie, le dollar fort. Alors là, on n'y est pas encore, mais la situation économique actuelle fait qu'il y a un ralentissement global. Ces pays sont directement aussi liés à la croissance chinoise, même si la Chine tient encore le choc. Bref, pour toutes ces raisons, ces monnaies donc font un nouveau plus bas, sachant qu'elles étaient déjà en tendance baissière depuis donc plusieurs années. Les graphiques arrivent plus tard. Rapidement, ce graphique, je vous l'avais déjà montré, ces pays, vous savez, moi je suis dans l'anticipation. Je me dis, ces devises, de toute façon, vont finir par être achetées. Non mais, l'Inde, j'ai aucune inquiétude sur la croissance économique indienne à horizon 20-30 ans. Là, sa monnaie chute. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont un déficit commercial structurel. Oui, l'Inde, c'est pas la Chine. La Chine, c'est l'atelier du monde, c'est l'usine du monde. Ce n'est pas encore le cas de l'Inde. Donc, et ils importent, donc non seulement ils importent énormément d'énergie, puis ils exportent pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment de biens industriels et de biens agricoles. Donc, ils ont un déficit commercial structurel. Mais cela va changer. Et puis là, donc, l'Inde est directement impactée par la situation géopolitique. Je vais vous montrer quelques éléments. Mais là, si vous voulez, lorsqu'on arrive dans une période où la Banque centrale d'Inde intervient directement sur le FX, comme la BOJ intervient sur le Yen, une intervention directe d'une banque centrale sur le marché d'échange, c'est vraiment que la Banque centrale considère que là, on arrive dans une zone de risque systémique. La chute de la roupie indienne, c'est derrière la fuite des capitaux internationaux. Bref, ça peut mettre l'économie sous pression. Il y a un seuil très important que le gouvernement indien veut ne pas voir franchir, c'est le seuil des 100 USD-INR est tout proche des 100. Vous allez voir les graphiques arrêtent. La Banque centrale d'Inde va bientôt monter ses taux, à l'image de ce que vient de faire de manière surprise la Banque centrale des Philippines et d'Indonésie. Tout ça pourquoi? Pour stopper la chute de la monnaie, car en plus tout ça c'est le serpent qui se mord la queue, parce que la monnaie chute parce que le prix du pétrole augmente, et vu que la monnaie chute, eh bien ça augmente l'inflation importée. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux, il faut absolument casser ça. Et donc, quand vous avez les banques centrales de ces pays qui commencent à intervenir et qui tapent du poing sur la table, souvent, c'est le timing que nous sommes pas loin de la fin de la chute de la monnaie. Alors, moi, je vous dis tout de suite, dès que vous allez observer une normalisation, je vous ai montré plusieurs fois ce graphique, une normalisation des flux à travers le détroit d'Ormuz, je pense qu'une des premières stratégies sera de se dire, il va être temps de revenir à l'achat sur ces monnaies émergentes d'Asie, et en particulier donc sur la roupie indienne. Qu'est-ce que c'est revenir à la normalité? Et le 26 février dernier, vous aviez environ 45 bateaux par jour qui sortaient et 55 bateaux par jour qui entraient, donc autour de 610 bateaux. Là, nous sommes, avec les données du 22 mai, nous sommes à 21. Donc, alors, y a quand même, c'est quand même mieux hein, que le mois de mars, mais... Voilà, donc moi, si vous voulez, dès qu'on nous allons retendre vers ce type de trafic-là, je suis assez certain que vous allez avoir un début de rebond de ces monnaies émergentes d'Asie. Alors, quelles sont-elles? Les voici. Elles sont toutes sous vos yeux, donc nous allons les regarder, nous allons parler de la Chine. Alors, pour la Chine, avant de vous parler de la Chine, voilà, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le yuan chinois, stratégie haussière sur 20 ans. Ben oui, ben écoutez, dans 20 ans, j'espère que vous serez tous en bonne santé, en vie, que vos proches aussi, et que vous aurez encore plein de projets. Bon. Mais donc, nous allons parler de la roupie indienne, du won sud-coréen, du peso philippin, du baht thaïlandais, du dong vietnamien et de la roupie indonésienne. Et en passant en revue le cycle des taux d'intérêt donc de chacune de ces banques centrales. Le cas de la Chine, il n'y a pas de sujet. C'est de toutes les devises, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer, elles sont... Est-ce qu'il y a mon chart? Ils sont là. De toutes les devises. Regardez. Dollar américain face à la roupie indonésienne. Effondrement de la roupie indonésienne, l'USD-IDR en forte hausse. Dollar américain face au dong vietnamien. La ligne noire ici, la ligne noire, c'est le début des opérations militaires contre l'Iran. La ligne noire ici, c'est le 27 février dernier. Donc vous allez visuellement pouvoir toutes et tous observer que ces monnaies émergentes d'Asie sont sous pression, encore plus qu'elles l'étaient déjà auparavant, comme vous montre ici le graphique hebdomadaire et là le graphique en données journalières, mais encore plus depuis le début des opérations militaires. USD-IDR, USD-VND, USD-THB, baht thaïlandais, USD-PHP, peso philippin. USD, won. Won sud-coréen, KRW. Roupie indienne. Eh bien, regardez ici l'impact de l'intervention de la Banque centrale d'Inde. Ça, c'est la semaine dernière. Et ce que craint, ce que veut éviter la Banque centrale d'Inde, c'est ça. Regardez, l'USD INR, qui était en vue du niveau des 100, la Banque centrale a dit stop, stop, il ne faut pas rejoindre ce niveau. C'est vrai que c'est vraiment l'effondrement depuis 15 ans maintenant de la roupie indienne, pour des raisons commerciales. Lorsque la Banque centrale commence à taper comme ça du poing sur la table, c'est pas loin d'un moment ou un autre où il va falloir acheter la monnaie. Ça va prendre du temps hein, lorsqu'on a une phase haussière comme ça. Il faudra créer ici une longue phase de distribution. Et donc, par contre, la seule qui est en hausse, c'est le yuan chinois. Le trait noir est ici. USD CNY est en dessous. Le yuan a gagné de la valeur. C'est la seule. Mais je vous ai fait la semaine dernière une vidéo spéciale sur le yuan. Donc, ce qui est intéressant, c'est que trois de ces banques centrales, la Banque centrale d'Inde, la Banque centrale des Philippines et la Banque centrale du Vietnam, non, la Banque centrale d'Indonésie, des Philippines et d'Inde, ont décidé de taper du poing sur la table. Tout d'abord, la Banque centrale d'Inde, elle intervient directement depuis la semaine dernière sur le marché d'échange. La Banque centrale des Philippines nous a passé une hausse surprise des taux d'intérêt. La Banque centrale d'Indonésie nous a passé aussi une hausse surprise de ses taux d'intérêt et elle va continuer. Ces trois banques centrales disent stop, stop à la chute de ma monnaie. Ce n'est pas encore le cas de la Banque centrale du Vietnam ni de la Banque centrale de Thaïlande, elles qui veulent préserver la croissance et qui ne souffrent pas d'un déficit commercial structurel. La grande différence, si vous voulez, entre les Philippines, l'Indonésie et la Thaïlande, c'est pourquoi j'ai mis la Thaïlande en vert, c'est l'aspect commercial. Et l'Inde. La Corée du Sud, bien sûr, c'est encore un cas à part parce que c'est une économie avancée. La Corée du Sud, elle, la monnaie chute parce que la Banque centrale pratique une politique monétaire ultra accommodante depuis très longtemps pour favoriser, bien sûr, l'excédent commercial. La Corée du Sud ayant un important excédent commercial et les taux étant particulièrement bas, en tout cas en dessous du taux de la Banque centrale. Vous avez donc, alors je vous ai remis ici pour chacun des pays la dépendance au détroit d'Ormuz. La dépendance au détroit d'Ormuz et le nombre de stocks stratégiques qu'il leur reste. Donc voilà, et puis ici vous avez le PIB nominal, vous avez un certain nombre d'informations, mais voilà, c'est quand même pour vous rappeler. Alors là vous allez me dire, oui mais alors par exemple, prenez l'exemple de l'Indonésie, l'Indonésie n'a une dépendance au détroit d'Ormuz que de 15%. Pourquoi est-ce qu'on fait toute cette histoire? L'Indonésie, uniquement 15-20% de dépendance au détroit d'Ormuz pour le pétrole, le gaz et l'urée. Et pourtant, lorsque vous prenez la roupie indonésienne, la roupie indonésienne est sous vos yeux, elle se fait éclater. Et d'ailleurs, regardez, on a cassé carrément le sommet de 1998, ce fut un signal bullish, donc voilà. Mais pourtant, elle ne dépend pas beaucoup d'Ormuz. Mais oui, elle ne dépend pas beaucoup d'Ormuz. Mais l'Indonésie est importateur net de pétrole. Donc, le prix du pétrole en hausse, ça concerne tout le monde, même ceux qui n'importe pas du pétrole via le détroit d'Ormuz. Ça met la pression sur la balance commerciale. Ça met la pression sur le pays. Ça met la pression sur la croissance économique du pays. Donc, voilà, même si vous voulez, si la dépendance... Alors, bien sûr, les pays qui ont une... Les pays ici qui ont, par exemple, l'Inde, la situation est extrêmement complexe. Parce que là, la dépendance est forte. Les stocks stratégiques de pétrole diminuent fortement. En plus, l'Inde souffre déjà d'un déficit commercial structurel, c'est chronique. Donc là, la Banque centrale n'a plus le choix, il faut intervenir. Nous allons regarder ensemble les taux d'intérêt de toutes ces banques centrales. Donc ça, je vous ai montré ça tout à l'heure, on s'en fiche. Donc la Banque centrale de Corée du Sud, elle pratique des taux qui baissent, ça ne changera pas. Par contre, elle va cesser de les baisser tant que la crise n'est pas résolue. Et pour l'instant, la Banque centrale de Corée du Sud n'est pas du tout stressée par la baisse de sa monnaie. Vous allez voir, on va regarder les graphiques tout à l'heure, ça peut aller plus haut. La Banque centrale d'Indonésie, elle dit stop. Stop à la chute de ma monnaie et elle devrait empiler d'autres hausses de taux à moins que le prix du pétrole ne retombe rapidement. La Banque centrale de Thaïlande n'est pas stressée parce qu'elle privilégie la croissance, qu'elle a un cycle de baisse de taux d'intérêt et elle ne souffre pas d'un déficit commercial structurel à la différence de l'Indonésie ou de l'Inde. Donc, les choses sont davantage sous contrôle. C'est pas forcément la monnaie qui pourra rebondir le plus fortement. Nous allons regarder les graphiques en dernière partie de vidéo. Hausse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale des Philippines la semaine dernière. Elle, comme d'ailleurs la Banque centrale d'Inde, souhaite interrompre la chute de la monnaie, ne serait-ce que déjà pour amoindrir le risque au niveau de l'inflation importée. Enfin, la Banque centrale du Vietnam, la situation est beaucoup plus calme, les choses sont sous contrôle pour le Vietnam. Depuis 2023, les taux sont bas. Les taux sont bas depuis 2023. La dépendance à Hormuz est sous contrôle. Pas de hausse de taux en vue, priorité à la croissance. Et vous allez voir donc que là aussi, le régime graphique est un peu différent. Voilà pour le topo donc sur ces monnaies. Vous avez donc retenu qu'il y a trois banques centrales qui commencent un peu à s'énerver. Les trois banques centrales qui commencent un peu à s'énerver sont la Banque centrale d'Inde, la Banque centrale des Philippines et la Banque centrale d'Indonésie. Probablement, ces trois monnaies, dès que la situation géopolitique va s'améliorer, dès que progressivement le trafic maritime va se normaliser, que l'outil industriel autour du détroit d'Hormuz va se remettre en marche, clairement, je pense que ces trois monnaies reprendront de la valeur face au dollar américain et donc que leur descente aux enfers sera bientôt terminée. Et justement, pour terminer cette vidéo, jetons donc un œil aux différents graphiques pour voir si certaines peuvent aller plus haut et voir qu'est-ce qui est important d'attendre pour se dire que la chute peut donc s'interrompre sur ces devises. Pas important de comprendre que lorsque vous avez, par exemple, comme ici, sur la roupie indonésienne, une phase de chute comme ça, une longue phase de chute. Donc, quand je dis que la roupie indonésienne chute, c'est que l'USD IDR est en hausse. Si l'USD IDR est en hausse, regardez ce graphique de long terme, et le dépassement de ce seuil, c'est pas anodin, c'est que l'IDR baisse. Donc, pour l'instant, bien, vous voyez que la hausse se poursuit. C'est en surachat massif, mais le marché a été déjà davantage suracheté. Il est assez certain que dès lors que la situation géopolitique va s'améliorer, vous aurez un retour de l'USD IDR, un retour sur ce support, le niveau des 16 850. Le marché a réalisé un breakout haussier ici en mars dernier. Il y aura un retour à ce niveau, un retour aux moyennes. L'écart à la moyenne mobile à 200 jours n'a jamais été aussi important. C'est ce que montre le disparity index. Pour le moment, donc, il n'y a pas de signaux de renversement. Alors, en ce qui concerne l'USD face au dong vietnamien, c'est aussi une tendance haussière de fond. C'est une tendance haussière de fond. Le marché n'a pas dépassé ici. Le marché n'a pas dépassé le record historique, à la différence de la roupie indonésienne. C'est ce seuil-là. Je vous ai expliqué que le Vietnam était moins sous pression, sa dépendance à Hormuz moins sous pression. La Banque centrale n'envisage pas forcément d'intervenir. Et au stade actuel, c'est globalement sous contrôle. Mon opinion est donc que l'USD-VND devrait se maintenir sous ce seuil. Bien sûr, dépend de la situation géopolitique, nous verrons bien, mais clairement, qu'est-ce qui va se passer dès lors que la situation géopolitique va s'améliorer? Il y aura un retour à la case départ. Pour la plupart de ces devises, ça va se faire progressivement, et ce sera d'autant plus agressif que la Banque centrale va décider de relever les taux. C'est pas le cas pour la Banque centrale du Vietnam. Et vous aurez, grosso modo, un retour au point de départ. Et ce, tant que le marché se maintient ici, sous cette résistance. En ce qui concerne le baht thaïlandais, la structure, on voit, est complètement différente. Malgré tout, vous avez une énorme zone de support ici qui se trouve entre 29 et 30. Et cette zone de support, on voit qu'elle agit depuis 20 ans. Et le marché est plutôt dans une zone basse. Alors, depuis la zone basse, eh bien, il y a eu un rebond sur support. Ici, regardez, début des opérations militaires, hasard du timing technique, le marché était dans la zone basse de support. Ok, très bien, donc derrière, eh bien, il y a eu une chute du baht thaïlandais. La situation de la Thaïlande est différente. Je vous ai expliqué que la Banque centrale n'était pas du tout pressée, en fait, n'envisageait pas du tout d'augmenter les taux. Et donc là, la situation est quand même différente. Avec cette trajectoire monétaire accommodante, nous pouvons nous dire que finalement, même après l'amélioration de la situation géopolitique, étant dans une grosse zone basse technique, on voit bien c'est un range, hein, entre 29,30 et 37,38. Moi, je ne serais pas surpris finalement que l'USDTHB remonte dans cette zone-là. Naturellement, quand la situation géopolitique va s'apaiser, il y aura d'abord une phase de retracement, peut-être un retour à la moyenne mobile à 200 jours, mais la trajectoire monétaire est tellement différente des autres banques centrales d'Asie que derrière, je pense que le marché peut revenir chercher la partie haute de ce range. Donc, c'est un trading range ici, peut-être intéressant. Alors, là aussi, hein, la Banque centrale des Philippines tape du poing sur la table. Et là aussi, donc, vous avez eu un breakout de ce niveau en lien avec la situation géopolitique. Dès lors que celle-ci va s'améliorer, vous aurez un retour à ce support, un retour à la case départ, un retour à ce gros niveau technique. Mais pour ça, il faut une amélioration sensible et définitive de la situation géopolitique. Pour le won sud-coréen, pareil, la banque centrale a plutôt engagé un cycle de baisse des taux d'intérêt qui est simplement mis en pause par la situation géopolitique. Mais là aussi, ces baisses de taux, alors bien sûr, il est hors de question pour la Banque centrale de Corée du Sud d'envisager des hausses de taux. Et je pense que derrière, en fait, dès que la situation va s'améliorer, elle va pouvoir resuivre sa trajectoire. La Banque centrale n'est pas dérangée par la baisse de la monnaie. La balance commerciale est excédentaire et l'USDKRW a de bonnes probabilités de rejoindre cette résistance, le niveau des 1597, de manière progressive. Donc vous voyez qu'elles sont logées, pas toutes logées à la même enseigne. Par contre, en Inde, donc là je vous l'ai expliqué, c'est la priorité de la banque centrale d'interrompre la chute de la roupie indienne. Et lorsqu'une banque centrale intervient en général, c'est le début de quelque chose. Vous avez la semaine dernière une structure en avalement baissier d'Ali ici, en terminologie japonaise. Alors, la banque centrale, si vous voulez, son message est clair. Je ferai tout pour que l'USD-INR ne dépasse pas le niveau des 100. Donc vous avez probablement ici le début d'une zone de distribution qui va se mettre en place. Il va falloir surveiller l'apparition de divergences, un début de quelque chose. Mais lorsque la banque centrale intervient directement sur le FX et parle même d'augmenter les taux d'intérêt, eh bien là, bien une chose, c'est que entre 95 et 100, bonne probabilité que se développe une phase de distribution avant ensuite un retour à la case départ. La roupie indienne sera probablement une des premières bénéficiaires de l'amélioration des conditions géopolitiques. Pour le yuan, c'est très différent. Le yuan, vous avez donc la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, je vous explique que c'est une stratégie haussière sur 20 ans. Et moi, je suis assez persuadé, et d'ailleurs, cela devrait durer jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Je pense que jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump, le dollar américain sera sous pression face au yuan renminbi pour des raisons que j'ai expliquées la semaine dernière. Et donc là, la situation est complètement différente des autres devises dites émergentes d'Asie. Bon, j'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que vous aussi. Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.